Je m'appelle Jean-François Mayer, je suis né à Fribourg, en Suisse, en 1957. Je suis historien de formation, j'ai travaillé pendant de longues années sur les questions de nouveaux mouvements religieux dans le monde contemporain, puis plusieurs années dans l'administration fédérale suisse, et depuis quelques années, revenu à l'activité universitaire, j'ai notamment créé un site Religioscope, qui est devenu l'an dernier également un petit institut sur les facteurs religieux dans le monde contemporain.
Première question, est-ce que vous pourriez nous dire si l'aspect virtuel d'Internet peut se concrétiser réellement par rapport aux vocations, par rapport à la recherche de sens ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un premier pas ou est-ce qu'il peut y avoir une suite à cette rencontre virtuelle ?
L'impression que l'on a quand on explore l'univers Internet, c'est qu'il peut s'agir à la fois d'un premier pas et d'un accompagnement par rapport à d'autres activités qui, elles, sont dans la majeure partie des situations, bien sûr incarnées dans l'univers physique et pas simplement dans le monde virtuel. J'en donne pour exemple des initiatives comme par exemple Retraite dans la ville, qui était destinée par ses initiateurs au départ à atteindre des gens qui ne fréquentaient pas les églises, les paroisses, et dans la pratique à attirer, je crois, à peu près 90% des gens qui sont par ailleurs des catholiques actifs. Ce qui me paraît intéressant, c'est que dans d'autres cas de confession chrétienne, on observe des phénomènes semblables, ou par exemple certaines activités de type église virtuelle, mais pas au sens de paroisse totalement parallèle, mais plutôt d'activités en ligne où des gens se retrouvent pour des activités de prière, regroupent souvent des gens qui sont par ailleurs actif. Alors bien sûr, c'est un petit peu le paradoxe parce qu'on dit Internet, c'est là avant tout pour atteindre les isolés, pour atteindre les gens qui ne fréquentent pas les églises. Et c'est vrai pour le premier pas, c'est vrai qu'il y a des moyens, même dans une pastorale locale, d'atteindre des gens qui ne fréquentent pas les paroisses, des gens qui utilisent l'anonymat que leur offre Internet pour prendre contact. Et plus d'un prêtre, plus d'un pasteur, plus d'un responsable religieux pourra sans doute vous donner des cas où des gens qui habitaient à quelques kilomètres de chez eux ont pris un premier contact en ligne grâce à l'anonymat que cela garantissait. Mais dans le long terme, imaginez un engagement qui se fasse uniquement sur Internet sans avoir également des manifestations sur le plan d'une vie paroissiale, ça paraît, sauf cas exceptionnel, assez difficile. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ça soit recherché ni très souhaitable.
Sur Internet, la dimension multimédia est fortement présente. Pourrait-on dire qu'elle est une chance à travers l'art et la culture pour proposer une nouvelle évangélisation ?
Il y a bien sûr des sites qui essayent d'utiliser ces ressources. Je me souviens par exemple d'avoir vu il y a quelque temps un site protestant allemand qui, autour de la personne de Jésus, évoquait la figure de Jésus dans l'art, la figure de Jésus dans la littérature, essayant de tirer profit de ces ressources multimédia. Évidemment, le multimédia rend d'abord souvent des sites plus attrayants, à condition évidemment de ne pas consommer une bande passante trop lourde qui découragerait un certain nombre de visiteurs. De toute façon, l'idée plus généralement, il est clair que ça ne doit pas être, je pense, celle de créer simplement des ghettos virtuels où on se retrouverait uniquement des gens déjà convaincus et uniquement autour de thèmes qui intéressent ces personnes déjà convaincues, mais il peut aussi y avoir un espace pour des sites où l'on met, si je peux dire, l'église au milieu du village, c'est-à-dire des sites qui peuvent s'occuper de questions séculières, des sites portails par exemple, mais où on peut essayer de créer une présence religieuse. Et ça, je crois que c'est un des éléments qu'on doit avoir à l'esprit. Il y a dans une présence sur Internet à la fois le nécessaire développement de sites qui représente l'Église catholique, qui représente toute autre confession, qui équipe les visiteurs. Mais il y a aussi cette question de la présence dans d'autres sites qui ne sont pas des sites à vocation religieuse avant tout, mais qui sont des sites généralistes et où on peut songer à des modèles originaux de présence. Et c'est d'ailleurs déjà des tentatives qui se font dans plusieurs pays d'avoir accès à une section pour l'Église dans des sites portails, par exemple.
Justement, quelle serait peut-être dans cette nouvelle forme d'évangélisation qui est aussi présente dans les milieux séculiers, quelles pourraient être les formes d'apostolat ou de ministère possibles sur Internet, si on peut utiliser ces termes ?
Il y a des formes qui se sont développées, je dirais, presque naturellement à cause d'une demande. C'est déjà la demande d'une écoute, la demande d'un soutien spirituel, le conseil spirituel. Je suis quand même très frappé de voir la place qu'a fini par occuper le conseil spirituel en ligne, avec des sites très fréquentés. Évidemment, non sans problème potentiel. Il est clair qu'une activité de conseil spirituel en ligne peut être aussi terriblement dévoreuse de temps, qu'il faut savoir gérer des personnes qui sont sincèrement en recherche et qui ont besoin d'indications, de lignes directrices et les différencier de ceux qui sont simplement là pour polémiquer ou des gens qui ne sont peut-être pas dans une démarche très équilibrée. Mais néanmoins, dans la pratique, on constate qu'une fois de plus, grâce à l'anonymat offert par le média Internet, beaucoup de gens essayent de trouver en ligne des réponses à leurs questions. Et alors à cet égard-là, il y a des initiatives intéressantes qui sont par exemple celles de sites répondant aux questions et mettant à disposition d'un plus large nombre de visiteurs, de façon anonymisée, généralisée, des réponses à des questions posées par des visiteurs. Et il faut se rendre compte que dans ce cadre qui n'a rien de contraignant, où quelqu'un peut simplement visiter un site pour se renseigner, pour trouver des réponses à ses questions, des gens qui auraient peut-être hésité à aborder directement un représentant de l'institution, se sentiront beaucoup plus à l'aise pour naviguer et peut-être pour recevoir à travers ce moyen des réponses à des interrogations qui sont importantes. Il y a autre chose aussi, mais qui en général concernera plutôt des gens qui sont déjà des croyants engagés, ce sont par exemple les activités de prière en ligne. Alors, c'est vrai que nous avons tous sans doute par rapport à ce genre de choses une sorte de prudence instinctive. On se demande est-ce qu'il est réellement possible de créer des chaînes de prière en ligne. Je dois avouer que j'avais moi-même pas mal d'hésitations à ce sujet et je vois aussi les aspects peut-être problématiques que cela peut présenter, mais dans la pratique, je dois bien constater qu'il y a des sortes de communautés virtuelles qui se constituent aujourd'hui, de gens qui ne se connaissent pas physiquement, qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui vont régulièrement se retrouver pour prier aux intentions d'autres inconnus, par exemple. Alors ça, c'est un des aspects qui est manifeste quand on explore l'univers Internet. Un autre aspect, évidemment, concernera des secteurs plus particuliers. J'ai, par exemple, été très frappé par la forte présence des monastères sur Internet. Et aujourd'hui, cette forte présence des monastères sur Internet s'explique notamment par un souci de communication. Pour tous les monastères, l'avenir, c'est aussi la recherche de vocation ou la disponibilité à accueillir des gens qui auraient vocation pour tel ou tel type de vie monastique. Et pour un monastère, être sur Internet aujourd'hui devient important dans la mesure où des gens qui sont intéressés par la vie monastique et qui ne connaissent pas déjà bien un monastère vont probablement chercher tout d'abord des informations à travers Internet.